Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. À nouveau, le roman de Alice Zeniter, L'art de perdre, dans nos lectures en liberté. Pour occuper ces hommes et ces femmes sans cesse plus nombreux, on leur propose des classes d'initiation à la vie métropolitaine, dans lesquelles les hommes pourront apprendre à écourter un message en vue d'envoyer un télégramme, et les femmes, comment utiliser une machine à coudre électrique ou un fer à repasser. Quant aux enfants, on leur enseigne immédiatement, comme si leur vie en dépendait, les vieilles chansons populaires. L'utilité de ces classes, bien que leurs élèves ne s'en doutent pas encore, ne réside pas dans l'enseignement qu'elles peuvent délivrer, mais dans la publicité soigneusement orchestrée autour de leur existence. Il s'agit de montrer aux Français que les nouveaux arrivants, aux mœurs mystérieuses, sont immédiatement pris en charge, de sorte qu'ils deviendront à leur tour de bons Français, sachant lire, écrire, tenir une maison et fredonner. Au début, en effet, il y a des caméras braquées sur le camp. Les journaux télévisés évoquent les trajectoires de ceux qui ont débarqué ici par milliers. Les caméramans adorent prendre des gros plans de leurs visages singuliers. Le noir de leurs cheveux épais, leur port de tête, la profondeur de leurs yeux, le geste par lequel les femmes ramènent sur leur côté de visage le haïk blanc ou les fichus colorés qu'elles ont noués autour de leur tête, les dents écartées des enfants, les bébés tenus dans les bras, les corps flottants ou au contraire enserrés dans des vêtements de la Croix-Rouge qui n'ont pas la bonne taille. Le silence, surtout. Ce que les journaux télévisés filment, c'est l'absence de langue dans laquelle parler. Le silence de ceux qui attendent. Le site de l'INA regorge de ces images prises dans les camps de Rivesaltes, dans celui du Larzac, dans les premiers hameaux de forestage où l'on envoie travailler les harkis. Sur l'une de ces vidéos d'archives réutilisées dans le documentaire « Musulmans de France » de 1904 à nos jours, on peut voir Hamid, minuscule mais aisément reconnaissable à la paupière légèrement tombante sur son œil gauche, qui s'époumonne au milieu d'une cinquantaine d'enfants dans un bâtiment préfabriqué. « on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. » Aucun gamin ne sourit. Et la chanson a rarement semblé aussi sinistre. « Qu'est-ce que tu préfères ?» demande un journaliste aux enfants qu'il parvient à arrêter. Certains ne veulent pas lui parler, ils ont clairement peur de lui. « La France ou l'Algérie ?» Quand on lui répond « La France », il dit alors « Tu dois être content ». Et quand on lui répond « L'Algérie », il s'étonne. « Ah bon ? Mais pourquoi ?» Et devant la gêne de l'enfant, il suggère « Parce qu'il y fait plus chaud. » Il pose la même question aux adultes avec à peine moins de paternalisme. Et les adultes répondent avec à peine moins de gêne et de peur que les enfants. La France. Il y a un homme, ses épais sourcils noirs froncés qui se mord les lèvres comme pour ne pas crier et qui répond « Pas l'Algérie, non ». Plus jamais, il faut oublier l'Algérie. C'est une chose qui lui demande des efforts énormes. Tout son visage est crispé. Pour oublier ce pays entier, il aurait besoin qu'on lui en ait offert un nouveau. Or, On ne leur a pas ouvert les portes de la France, juste les clôtures d'un camp. Je ne voyais pas ça comme ça. C'est une phrase qui revient souvent au détour des allées, mais qu'aucune caméra ne saisit. Les hommes la mâchonnent et la crachent à regret, les femmes la soupirent entre elles. La plupart même, sans avoir quitté le bled, avaient une idée, une image de ce qu'était la France. Et elle ne ressemblait en rien au camp de Rivesaltes. La France, depuis le village de la Crête, n'était ni terrifiante ni inconnue. Elle n'était pas vraiment l'étranger, et encore moins elle Gorba, l'exil. Les ministres français avaient affirmé les uns après les autres pendant les années du conflit que l'Algérie, c'était la France. Mais la phrase fonctionnait en sens inverse pour la plupart des villageois. La France, c'était l'Algérie, ou du moins une extension de l'Algérie où partaient les hommes depuis près d'un siècle. D'abord, les paysans qui travaillaient plusieurs mois au champ avant de rentrer au village, ensuite, les ouvriers d'usine. Pour Yéma, c'était une grande ville plus lointaine qu'Alger, plus lointaine encore que Constantine, mais dans laquelle se croisaient et s'entrecroisaient les Algériens. Ali lui-même y était allé pendant la guerre en 1944. Ça n'avait rien pour l'impressionner. La France, disait le vieux Rafik au village, c'est comme le marché. On y va un peu plus longtemps, mais on revient avec les marchandises. Je ne voyais pas ça comme ça. Pourquoi est-ce que rien ici ne ressemble au récit entendu? Est-ce que les anciens ont menti? Tous les mercredis se déroule l'étrange cérémonie que l'on appelle procédure de déclaration recognitive de nationalité. Devant un juge et son assesseur, les habitants du camp sont invités à répondre à une question unique. Voulez-vous garder la nationalité française ? On a affirmé à ces hommes enrôlés de gré ou de force, complices parfois sans le savoir d'une guerre qui ne disait pas son nom, qu'ils étaient français. Depuis, ils ont perdu l'Algérie. Et on leur demande maintenant s'ils ne veulent pas, par hasard, renoncer à la France. Ils ne voient pas ce que ça leur laisserait. Tout le monde a besoin d'un pays. Voulez-vous garder la nationalité française ?
Oui, monsieur, dit Ali.
Et vous, madame ?
Le juge regarde Yéma, toute petite, devant le bureau, mais c'est encore Ali qui répond.
Oui, monsieur.
Alors signez ici, dit froidement l'assesseur.
Ali se tord nerveusement les mains depuis le couloir sombre où on lui a ordonné de se tenir tranquille. Hamid regarde la gêne courber la nuque de son père. Comme il le voit de dos, il a l'impression que sa tête disparaît lentement dans les larges épaules, se fait absorber par leur sable mouvant.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» demande l'assesseur. « Je ne sais pas écrire, monsieur. »
L'autre lui fait signe de tremper son doigt dans l'encrier et d'apposer son empreinte digitale au bas du document. De là où il se trouve, Hamid ne peut pas entendre ce qui se dit dans la salle, mais il voit les lèvres bouger, du moins celles de l'assesseur et du juge, pas celles de ses parents, qui présentent leur dos muet, uniquement deux paires de lèvres sur les quatre, mais cela lui suffit pour savoir qu'aucun des deux hommes assis derrière le bureau n'est en train de raconter une histoire, de prendre des nouvelles, ou même d'expliquer à ses parents que la situation est un peu plus délicate qu'il ne pourrait le croire.
Vous comme nous, notez bien.
Parce que, voilà, comment peut-on formuler cela, la démocratie, si vous voulez, ou les droits de l'homme, ou les Trente Glorieuses sont comme un gâteau appétissant, un gros gâteau si vous le regardez sur les photographies, admettons, d'un magazine de cuisine, ou d'un livre de recettes qui le présente en train de trôner, ou de flotter, sans aucun référentiel extérieur à partir duquel appréhender sa taille réelle. Mais une fois posé sur la table, entouré de tous ces mangeurs de droits et de ces mangeurs putatifs ou de ces prétendants mangeurs, ce gâteau, avouez-le, ne paraît plus aussi gros, loin de là, et le diviser en miettes est une activité longue et pénible dont nul ne sortira rassasié malgré les efforts qu'elle exige. C'est pourquoi nous sommes, comprenez-le, nous sommes obligés de vous demander si par hasard vous n'auriez pas plutôt envie d'une pomme pour le dessert, ou même de passer directement au café, si vous voyez ce que je veux dire. Non, Hamid en sera certain quand il repensera à la scène. Ni le juge ni l'assesseur ne prennent le temps de filer des métaphores culinaires ou non. La France est un potager que trop de plantations épuisent. La France est un océan dépeuplé par la surpêche. Ils agitent les lèvres pour donner des instructions lapidaires. Et son père obéit chaque fois, pressant son doigt taché sur le document qu'on lui tend, hochant la tête, s'éloignant d'un pas lourd quand on le lui demande. Le petit garçon découvre un nouvel Ali empressé, soucieux de bien faire, et pourtant incapable de répondre à une première chose que la France attend de lui, à savoir qu'il puisse écrire son nom. Malgré lui, Hamid fait confiance au sourire poli, mais légèrement méprisant du magistrat et de son assesseur, et il se dit que savoir écrire ne doit pas être si compliqué. Il voit Ali et Yema quitter le bureau en tendant en l'air leur index noirci dont ils ne savent que faire, et il y a quelque chose d'idiot dans leur posture et dans leur regard perdu. Rivesalt est en mouvement permanent. Arrivée et départ, addition, soustraction. Certains semblent quitter le camp avant même d'y être entrés. Ce sont pour la plupart des militaires restés dans l'armée française et qui peuvent obtenir rapidement un ordre de mission. Ou bien des civils dont la famille est déjà installée en France et qui dispose d'un point de chute. Pour les autres, c'est le flottement. Entourés de départs et d'arrivées de tous côtés, la terre leur tourne. Au fil des semaines, puis des mois, les hommes et les familles sont triés, répartis, redistribués. On sépare des voisins, des amis, des proches qui venaient se retrouver ici et à qui ce regroupement fortuit offrait une consolation appréciable. Ils attribuent ce nouveau déchirement à leur malchance, à la cruauté du hasard ou aux nécessités d'un monde du travail qu'ils connaissent mal. Personne ne leur explique que le service des Français musulmans, rattaché au tout nouveau ministère des rapatriés, a recommandé qu'on veille à ne pas mettre dans les hameaux des familles de même origine. Car cela amène inévitablement, en cas de difficulté, les membres de cette famille à faire bloc et de ce fait à opposer une résistance accrue en cas d'application de mesures de discipline. Selon un principe que certains font remonter à la Grèce antique et d'autres au Sénat romain, un principe que Machiavel a rendu si populaire qu'il est devenu platement proverbial, on les divise pour mieux régner sur eux. Certains partent dans le nord où les bouches ouvertes des mines les attendent. Ceux-là sont généralement des grands gaillards aux épaules solides, du muscle sans langage. D'autres s'éparpillent en étoiles vers la centaine de hameaux créés par l'Office national des forêts pour générer de l'emploi. D'autres encore s'éloignent vers l'ouest en direction des Landes pour y trouver non pas un travail mais un autre camp, celui de Bias, où ils prennent la suite des Français d'Indochine, eux-mêmes envoyés vers un autre camp. C'est la danse des perdants des guerres coloniales.
اش في ضكما من تفق ذي الشتوى اصباح زي كالنبذو تكلي انا وبريد اللي كل استمرى تفات ورعة تفراري نلحق طلامي واضض وفروري يرزو سال بريد يلي ذاق ما تشي ما نشضح نغني ما ردي سجي
Nous arrivions dans la salle de classe où le maître paraît. Nous retrouvions chaque jour notre place et l'on ne pouvait plus se parler. Puis bercé par les vagues d'une douce chaleur que nous prodiguait le vieux poêle, nos esprits s'évadaient pour se rejoindre ailleurs vers des plages.
راسس أمي ضيق اللان والأرض شقشتو البراق ضرب الهواء أيات كان سر نقر أهيا جماع. الشيخ في اللغمة يتسوغو نكتر قوضي تسيا الريف تكوزين تيتساوي دي الحموم أمزونا كندي تنفا.
Je revois les yeux tendres et les visages tristes qui autour de moi écoutaient. Et pendant les leçons dans mon coin je rêvais à tes îles.
راسس أمي ضيق اللان والأرض شقشتو البراق ضرب الهواء أيات كان سر نقر أهيا جماع.
Je me souviens de ces matins d'hiver, dans la nuit sombre et glacée, quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers. Sans songer à l'école, en pleine liberté pour rêver. Adefelne, Shfiras Amassar.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Alice Zénitaire, l'art de perdre. Ali et sa famille, pendant de longs mois, ne sont envoyés nulle part. Hamid éprouve de la honte à ce que personne ne veuille des bras de son père, ceux-là même qu'il a toujours regardé comme des émanations de puissance brute et qui pendent maintenant le long de ses flancs inutiles et flaccides. Ils se résolvent à aménager l'espace qui est le leur ici, à Rifsalt, en attendant que quelque chose de l'ordre de la vie commence. En agrafant des sacs poubelles dépliés sur des cadres de bois, ils ont fabriqué une porte qu'ils placent devant l'ouverture de la tente. Le lendemain, d'autres familles les imitent. Il se crée une sorte de mode dans le camp. Il faudrait un jour analyser comment ou pourquoi cela est possible. Que des modes apparaissent jusque dans le dénuement extrême, qu'il se dégage tout à coup une manière d'être pauvre que les autres veulent imiter. À chaque coup de vent, il faut aller chercher la porte mobile, quelques allées plus loin. Mais les familles le font patiemment, soigneusement. La porte leur donne l'illusion qu'ils peuvent préserver à l'intérieur de la tente une intimité encombrée qui leur appartient, qu'ils peuvent choisir d'ouvrir ou de fermer leur domaine, qu'ils en sont maîtres. Plus bas dans le camp, il y a le quartier dit des célibataires, dans lequel Ali a défendu à ses enfants de s'aventurer. C'est un nom amer pour les hommes seuls qui y sont regroupés, car nombre d'entre eux ne sont pas en réalité célibataires. Certains sont veufs, d'autres n'ont pas réussi à venir accompagnés de leur famille. On leur a dit « ils te rejoindront plus tard, mais les papiers, il n'y a que toi qui les as ».
On leur a dit « Pars d'abord, tu feras le nécessaire une fois en France ». Mais ensuite, il n'y a eu que le chaos d'un côté comme de l'autre de la mer. L'administration française qui refuse de pratiquer le regroupement familial, le gouvernement algérien qui dénie aux familles de harkis le droit de sortir du territoire, et puis les maisons pillées par vengeance et abandonnées à la hâte, les lettres qui reviennent parce que personne ne vit plus à l'adresse indiquée. Et comment savoir alors où écrire, où s'est cachée l'épouse si un proche l'a recueillie ? Dans cet endroit du camp, les bagarres éclatent à tout moment. Celles qui ne servent à rien d'autre qu'à sentir un poing s'écraser contre sa gueule en espérant que l'impression de cauchemar, ténue mais permanente, se dissipera alors, des bagarres sans colère et sans joie. Pourtant, Hamid aime défier les ordres paternels et s'y rendre. Il y a un vieux qui lui plaît, sa tête lui rappelle les bandes dessinées qu'ont rapporté des bénévoles du Secours catholique ou de la CIMAD ou de la Croix-Rouge. Il ne fait pas la différence. Ils se ressemblent tous avec leur sourire humide et doux. Hamid regarde les dessins et son imagination supplée au dialogue des bulles qu'il ne peut pas lire. Le mage indien, qui aide Mandrake dans l'une de ses aventures, parle comme le vieux du quartier des célibataires. La tristesse appuie sur sa voix, la maintient dans les fréquences basses, coincées au fond, proches du grondement. Et même si la bulle est toute petite, Hamid y fait entrer toute une histoire. Une nuit, dit le vieux mage, un groupe de moudjahidines frappe à ma porte. Moi j'ouvre et je leur donne à manger. Ils me demandent si j'ai un chien, et je dis oui. Ils disent, il va falloir le tuer. Au début, je ris, pourquoi tuer mon chien? Tu penses qu'il est vendu à la France? Je peux te garantir que non. Ils m'expliquent que les chiens aboient chaque fois que leurs combattants passent et que ça les signale aux Français. Pas le mien, je lui réponds, le mien, il est dressé. Tu as entendu quelque chose quand vous êtes entré? Rien du tout. Quand même, il dit, il va falloir le tuer. J'ai répondu, ce n'est pas possible, je suis un homme saint. Ma religion, ma confrérie m'interdisent la violence. Ils ont demandé, tu es un marabout ? Et avant même que je réponde, ils avaient lâché leur assiette en disant qu'ils regrettaient d'avoir partagé le pain avec moi. J'ai cru qu'ils allaient partir. Mais ils m'ont donné un bâton et ils m'ont dit « tape ». J'ai dit « non ». Ils se sont mis en colère. Ils ont dit « c'est le chien ou toi ?» J'aurais dû dire « moi ». Je ne sais pas ce que j'ai cru. J'ai cru que tout pourrait s'arranger peut-être. Si j'avais su que la vie d'après c'était le camp, que demain c'était le tombeau, alors j'aurais dit « frappez ma tête à moi ». Et laissez-moi mourir ici, sur ma terre, parmi les membres de ma zaïouya, près de mon cheikh. J'ai eu peur. J'ai été lâche. J'ai tapé le chien. C'est fou comme c'est résistant, un chien. Ça ne veut pas mourir. Ça s'accroche. Et ça hurle comme une toute autre bête quand ça commence à souffrir. Commence à souffrir. Ça hurle comme les hiboux. Et puis je voyais à ses yeux de bon chien qu'il ne comprenait pas pourquoi je lui faisais ça. À la fin, ça prenait trop de temps. Ils l'ont égorgé. Ils ont dit « La prochaine fois, tu obéiras directement ou c'est toi qui y passes. »« Je te vengerai », promet Mandrake dans le mouvement de sa cape soyeuse, « et je vengerai aussi ton chien ». Au cours d'une distribution de vêtements, Kader reçoit un pyjama rouge vif, qui, pour une fois, est parfaitement à sa taille. C'est une combinaison en pilou qui se boutonne devant, de l'entrejambe au cou, et qui s'orne derrière, au niveau du coccyx, d'un pompon de laine. C'est moins une tenue pour dormir qu'un déguisement de lapin ou de petit animal fabuleux. Sitôt qu'il l'a passé, le pyjama devient son vêtement préféré et Kader refuse de le quitter. Il le porte tous les jours et le cache où il peut, au soir venu, pour que Yema ne le fasse pas disparaître dans le tas triste des vêtements à laver. Entre les tentes et les baraquements aux couleurs ternes et militaires, Kader, le lapin rouge, jette les éclats de rire de son pyjama. Sur la tête, il enfonce un bonnet trop grand qui lui recouvre presque les yeux, mais qui a l'avantage de tenir chaud à son crâne rasé. Tous les enfants ont dû laisser leurs cheveux à l'entrée du camp par mesure d'hygiène. Au pied, il chausse des bottes en caoutchouc légèrement trop serrées qu'il ne parvient jamais à retirer seul. Ainsi paré, Kader court dans le camp, il saute au-dessus des flaques et de la boue, il tourne à angle droit d'une allée à l'autre en imitant le cri des freins. Des freins d'un lapin ? Il fait craquer sous ses bottes les planches et les palettes qui constituent les seuls chemins secs et qu'il voit comme des passerelles suspendues au-dessus d'un vide effrayant. Il troue les cartons du talon, parfois il se rate, il dérape de la passerelle et sa botte rencontre la flaque. « Attention au crocodile !» fait jaillir des gerbes d'éclaboussures brunâtres qui viennent maculer son pelage de lapin magique. À la fin de la journée, il est une petite boule rouge écrotée que Yema peine à nettoyer dans une bassine. Il n'y a toujours pas de douche dans le camp, mais bientôt, bientôt, leur promettons. Quand elle lui retire sa fourrure vermillonne, le petit garçon se contorsionne et proteste. Il voudrait être lavé avec elle, qu'elle ne le quitte jamais. Il lui envie son enfance que la guerre ne paraît pas avoir mordue. Une enfance pleine de lapins fabuleux et d'aventures à passerelles. Dalila n'est pas comme ça. Elle vient d'avoir 8 ans et ressemble davantage à Hamid. La guerre leur a fait tomber une nuit sur le regard qui a sorti leur visage de l'enfance d'un coup. Hamid rêve d'y retourner. Pour lui, le territoire perdu, c'est l'insouciance plutôt que l'Algérie. En lui, il cherche à faire grossir l'imaginaire, qu'il se présente comme une sorte de soufflet rose, au point que le monde extérieur n'ait plus de place. C'est ce qu'il parviendra presque à faire quand il rencontrera Clarisse, mais ce sera 10 ans plus tard. Pour l'instant, au camp de Rivesalt, ni Mandrake, ni Tarzan ne parviennent à empêcher les stimuli du dehors de venir cogner à la porte de son monde. Au début du mois de novembre 1962, les camions apportent un nouveau convoi plein d'éclopés. Parmi eux, la tête entourée d'un bandage grisâtre, se trouve Messaoud, le frère de Yema. Hamid est le premier à reconnaître sous sa blessure un visage familier surgi du temps de la crête. Il crie de joie et saute dans les bras de son oncle. À sa suite, Ali lui donne une virile et brève accolade. Yema prend tout son temps. Elle le regarde, le caresse, pleure sur son épaule et dit « Comme tu as maigri !»« Au moins je suis entier !» répond Messaoud. Il le raconte brièvement qu'en août, après avoir amené Yema et les enfants à Tefechnoun, il a été arrêté par le FLN. Après 2 mois de captivité, il s'est échappé. « Comme Mandrake !» pense Hamid avec excitation. « Le garde m'a laissé m'échapper !» corrige son oncle. Il a dit « Demain, c'est ton exécution, mais je crois que ce soir, je serai tellement fatigué que j'oublierai de fermer la porte. Je me suis enfui et j'ai marché 2 jours. Les cousins d'Alger m'ont caché. » La suite, bateau, train, camion, camp, ils la connaissent tous. Ils n'en parlent même pas, et cette ellipse du voyage qui se répète dans les discours des nouveaux arrivés donne l'impression qu'Alger et Rivesalt sont des villes voisines, que la mer entre elles n'existe pas. On fait une place à Messaoud dans la tente, déjà surpeuplée, pour lui éviter une installation dans le quartier des célibataires, et la soirée prend des airs de fête. Ali et Yema veulent partager avec lui tout ce qui constitue le peu qu'ils ont. Ils l'assaillent de pullovers, de chaussures dépareillées, une boîte de sardines, des carrés de sucre. Mais Saoud rit et repousse les objets tendus une fois, deux fois avant d'accepter. Même ici, il se doit d'obéir aux lois tacites du village. On ne refuse pas un cadeau. On réfléchit seulement à ce qu'on pourra offrir plus tard. On crée une obligation de reconnaissance, ce qui est un lien comme un autre, peut-être le seul, qu'il leur reste à tisser ici. Demain, je t'apprendrai ce qu'il faut savoir pour s'en sortir dans le camp, promet Ali. Et dans cette simple annonce, il retrouve un peu de son aura de patriarche, de notable, un peu de la confiance qu'il avait avant sur la crête. Aux yeux de Hamid, il semble à nouveau grandir dans le petit espace de la tente, redevenir homme des montagnes. Une fois les enfants couchés, les adultes boivent le thé que Yema a préparé sur le réchaud bancal et leurs murmures se font tristes. « J'ai vu brûler les oliviers, » dit Messaoud. Il vérifie que les enfants sont endormis. Hamid ferme les yeux avec souplesse et décontraction pour imiter le sommeil. Et il montre sur ses poignets les cicatrices laissées par le barbelé des menottes artisanales dont il a subi la morsure de longues semaines. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.